c'est très philosophique, mais il est temps pour nous de casser ce rapport marque-consommateur. On n'est vraiment pas lié à des attentes consommateurs. On va développer, moi je l'ai vécu, on développe en fait des formules, on essaye de faire des panel tests, des choses comme ça, mais on est quand même assez déconnecté du consommateur. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est la co-création. On entend beaucoup le mot co-création en ce moment, mais l'open source, c'est de la co-création. Ce qu'on explique, c'est que cette valeur-là, elle est au cœur même de l'open source parce qu'on co-développe avec des experts métiers.
Bonjour, je suis Chantal Soutarçon. Bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast dédié à la cosmétique en mouvement. Aujourd'hui, je reçois Nathalie Bovis et Mélinda Briand, les deux fondatrices de la marque Les Bénéfiques. Deux parcours différents, une rencontre qui fait tilt, des questionnements perso pour la première et pro pour la seconde, et voilà comment le duo s'est retrouvé à créer la première marque cosmétique française open source. Cosmétique open source ? Qu'est-ce que ça ? Eh bien justement, avec Mélinda et Nathalie, on détaille ce concept inédit et original qui repousse les limites de la transparence. Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Bonjour Mélinda.
Bonjour.
Je suis enchantée de vous rencontrer à nouveau, parce qu'on s'est déjà vu, on s'est croisé à un salon il y a quelques mois. Donc là, de vous avoir en face de moi, c'est vraiment génial.
Ben nous, on est ravis, quoi. On est vraiment contentes parce qu'on te voyait, on t'écoutait, mais là, te voir en vrai d'aussi près, c'est trop bien.
Mais ouais, plaisir partagé de passer, tu vois, dans l'inverse du décor.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est c'est symbolique.
Et alors, pourriez-vous vous présenter ?
Alors, je vais commencer, honneur à la plus vieille. Donc, moi, je suis Nathalie. Donc, j'ai eu 50 ans cette année. Donc, grande année, en fait.
Félicitations.
Je suis très contente. Belle fête en prévision.
Voilà.
Et donc, j'ai deux enfants, deux ados de 16 ans, des jumeaux, garçons et filles.
Ouais,
c'est du pur bonheur. Ouais. Et puis, moi, l'adolescence, un petit peu moins, mais on n'en parlera pas. Et donc, au niveau pro, moi, j'ai plutôt une carrière dans des multinationales. Donc, dans plein de domaines différents, en France, à l'étranger, enfin, un petit peu partout. J'étais un pigeon voyageur, comme on dit. Et donc, plutôt avec cette expérience. Et dernièrement, plutôt dans tout ce qui est cosmétique et plutôt écologie.
OK.
Et du coup, Linda. De l'autre côté, donc c'est le yin et le yang, on se complète plutôt pas mal. Moi, du coup, 32 ans, pas d'enfant. Grande fierté. c'est une valeur que je porte.
Tu as raison.
Et moi, du coup, à l'inverse de Nathalie, j'ai été diplômée de l'ISIPCA. Vraiment, je me suis spécialisée dans mes études en cosmétique. C'était une passion que je voulais transformer en métier. Et j'ai tout de suite intégré le réseau bio. Donc, en fait, j'ai tout de suite été dans ce type d'industrie et de distribution parce que c'était des valeurs fortes que je voulais porter. Et donc, du coup, j'ai une casquette vraiment chef de produit. Mmh. C'était mon diplôme. Et du coup, j'ai travaillé pas mal de temps dans cette partie-là.
D'accord. Et alors, c'est votre rencontre qui a été à l'origine des bénéfiques, je crois. Racontez-nous votre histoire.
Alors, ce n'est pas exactement notre rencontre. Par contre, on a vécu quelque chose de commun en même temps. Okay. Enfin, effectivement, on s'est rencontrés dans notre dernière entreprise. On a eu la chance en fait, de travailler ensemble. Il nous a fallu à peu près 10 minutes pour savoir que ça fitrait à fond entre nous deux. Mais c'est surtout que quand on s'est rencontrés, on a toutes les deux vécu une rupture de confiance. Donc, à la fois personnellement pour moi et professionnellement pour Mélinda. Donc, je vais commencer par moi. Et donc, c'était il y a 3 ans. Moi, j'ai eu un cancer du sein. Donc, j'en parle ouvertement parce que ça fait partie de mon histoire et je l'assume complètement. Quand on est en traitement contre le cancer du sein, notamment, il y a les traitements de radiothérapie par lesquels on passe. Ouais. Et là, du jour au lendemain, on vous dit « Ah, attendez, vous ne pouvez plus utiliser ni votre gel douche, ni votre shampoing, ni votre déo. » Habituellement, il faut trouver des produits. Vous allez devenir très fragile, ça peut perturber les traitements. Il faut trouver des produits les moins nocifs possibles. Il faut vraiment qu'il n'y ait rien pour vous. Mais alors, je leur dis, qu'est-ce que je prends ? Ah non, on ne recommande plus rien, parce qu'on ne comprend rien, en fait, aux cosmétiques.
Ah oui,
on ne sait jamais ce qu'il y a dedans.
On te dit ça carrément.
Voilà, et donc, c'était curie quand même. Hein. Donc, du jour au lendemain, je me retrouve avec cette info, et je me dis, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je prends ? Donc, un petit peu dans les cosmétiques, connaissant un petit peu, mais pas étant aussi experte, par exemple, que Mélinda, moi, je commence à regarder ces étiquettes. Donc déjà, pour déchiffrer, on est tous pareils, on regarde ces étiquettes, on se dit, c'est quand même pas évident. Et force est de constater qu'il y avait toujours des ingrédients en fait qui moi me posaient problème. Donc c'était un cauchemar pour moi pour trouver des produits qui puissent me convenir à cette époque-là. et Mélinda.
Et du coup, on s'est rencontrés à cette période-là où Nathalie a vécu cette grosse rupture. Nathalie, quand elle a essayé de chercher à comprendre ses produits, je lui ai dit, cherche pas, malheureusement, on cultive cette culture du secret en cosmétique et ça nous arrange, entre guillemets, que tous les consommateurs ne comprennent pas forcément ce qu'il y a dans les formules. Enfin, voilà, moi, c'était un peu mon parti pris, ma position, et surtout que du coup, moi, j'ai hérité du coup de 10 années dans la cosmétique qui était ma passion. Et c'est ce que Nathalie disait en introduction, moi j'ai vécu plus une rupture du coup de confiance mais professionnelle, où à travailler en fait dans ce secteur-là, connaître l'envers du décor, m'a amené moi du coup à me rendre compte que les choses n'étaient pas si merveilleuses que ça, même quand on allait dans le meilleur entre guillemets des réseaux de distribution et qu'on essayait de faire mieux les choses au quotidien, on avait exactement les mêmes stratégies entre guillemets qu'on pouvait trouver dans du conventionnel, où on utilisait des fameux ingrédients marketing qu'on mettait dans les formules à moins de 1% parce que du coup c'était très joli de le mettre sur l'étiquette, ou alors on mettait nos beaux drapeaux bleu blanc rouge sur nos cosmétiques en disant que c'était fabriqué en France, mais il n'y avait pas forcément un sourcing français derrière. Donc voilà, donc toutes ces choses-là, moi, je les ai vécues professionnellement. Et en fait, on s'est rencontrés sur cette idée en se disant, on ne comprend pas, on a une grosse rupture de confiance.
On a besoin de savoir.
On a besoin de savoir. Et en fait, on s'est rendu compte qu'autour de nous, il y a énormément de personnes en fait, qui étaient dans ce cas-là. Moi, j'ai vécu aussi, du côté du réseau bio, l'évolution des labels, où en fait, les labels ont vraiment été créés comme étant une caution externe, où du coup, on avait besoin de rassurer le consommateur. Donc ça, c'était une première étape. Après, il y a eu l'avènement d'applications comme Yuka, où on pouvait du coup scanner, avoir accès à ces informations. Pour nous, voilà, c'était des gros faits marquants, du coup, de rupture de confiance de consommateurs qui avaient besoin d'être rassurés. En fait, on s'est dit, c'est quoi l'ultime étape pour redonner confiance aux consommateurs ? Bon, nous, ça passe par l'open source, donner sa recette au gramme près, voilà, c'est ça. Ce dont on va parler.
Donc l'histoire est venue de là, l'idée de l'open source est née en fait de vraiment cette confrontation de deux faits à la fois perso et pro. Ouais. Et c'est là où on s'est dit, mais il y a vraiment un truc à craquer, quoi.
Ouais. Donc, voilà. Et alors, votre slogan, c'est les bénéfiques, les cosmétiques qui n'ont rien à cacher. Mais la transparence, on l'a un peu vu et déjà vu. Enfin, c'était un peu le slogan de toute la génération indie brand qui s'est lancée il y a quelques années.
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on l'a vu. Tout le monde parle de transparence. Par contre, personne, mais vraiment personne, n'est allé aussi loin, c'est-à-dire jusqu'à donner ses formules au gramme près, c'est-à-dire qu'on n'a vu aucune marque. Et on le sait parce qu'on fait partie d'un incubateur, le 101, qui est effectivement à Chartres et qui travaille aussi avec la Cosmetic Valley. Et on le sait parce qu'en fait, jamais personne ne voulait donner ses recettes au gramme près. Et nous, on va plus loin, c'est-à-dire qu'on donne on donne la liste de nos ingrédients, on dit d'où ils viennent et le rôle qu'ils jouent dans le produit. Donc, c'est-à-dire que cette transparence ultime, totale et extrême et qui est donné sur les packagings, aujourd'hui, c'est du jamais vu. Quoi. Et ça, pour nous, c'est un moyen, par rapport à l'histoire qu'on vient de raconter juste avant, de renouer ce contrat de confiance avec les consommateurs qui ont une vraie défiance vis-à-vis des cosmétiques. Nous, on a fait des études et récemment, j'ai vu sur LSA que c'était le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 85% des consommateurs qui veulent savoir ce qu'il y a dans leurs produits en fait, cosmétiques.
Ouais.
Donc principalement pour des raisons de santé, pour des raisons d'écologie, mais enfin il y a une vraie attente par rapport à ça.
Ouais.
Et c'est vrai que si on veut pousser au plus loin la transparence, faut aller jusque là.
Faut aller jusque là.
Ouais.
Et donc votre principe d'open source, ça me fait penser un peu à la blockchain qu'on avait vachement vu il y a encore quelques années, puis qui a un peu fait pchit. Hein.
Mais oui, la blockchain c'est plus c'était s'assurer que l'information qu'on donnait était vraie. Parce qu'elle était, elle était gravée entre guillemets dans la roche, où on pouvait pas la modifier. Donc il y a eu effectivement cette vague-là. Il y en a beaucoup eu en alimentation. Moi, je sais que j'ai travaillé sur des projets de blockchain dans le réseau bio parce que du coup, on essayait d'insuffler justement ce vent un peu nouveau sur la consommation. Mais en fait, ce qu'on explique, l'open source. Donc effectivement, des fois, on nous regarde, on plisse un peu des yeux. C'est pas évident quand on parle de cosmétiques open source. C'est très simple. En fait, nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment transposer les principes de l'open source sur les produits qu'on achète au quotidien. Et du coup, un produit qu'on achète au quotidien, si on veut qu'il soit open source, la première règle, c'est juste d'ouvrir la recette comme on ouvre du coup un code pour que tout le monde ait accès à l'information. Et donc, nous, ça passe par la formule en cosmétique où on a cette formule au gramme près directement sur les emballages. Là où on avait juste une listing key avec des virgules incompréhensibles, nous, on arrive et on donne cette information. Et après, l'open source, c'est aussi des valeurs assez fortes de partage et de co-développement. L'open source, c'est assez bénéfique sans vilain jeu de mots, mais c'est bénéfique parce que à partir du moment où on ouvre une formule, on donne accès à une information. Il y a une pédagogie en fait qui explique au consommateur ce qu'il achète, mais du coup le consommateur devient acteur dans sa consommation parce qu'il va pouvoir lui faire des choix en toute conscience, mais aussi les comprendre et potentiellement demain en fait lui nourrir aussi les futurs développements. C'est ce qu'on explique, c'est que c'est très philosophique, mais il est temps pour nous de casser ce rapport marque consommateur où en fait on n'est vraiment pas lié à des attentes consommateurs. On va développer, moi je l'ai vécu, on développe en fait des formules, on essaye de faire des panel tests, des choses comme ça, mais on est quand même assez déconnecté du consommateur. Mmh. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est la co-création. On entend beaucoup le mot co-création en ce moment, mais l'open source, c'est de la co-création. Ouais, ce qu'on explique, c'est que cette valeur-là, elle est au cœur même de l'open source parce qu'on co-développe avec des experts métiers. Mmh. Donc on a beaucoup d'experts métiers qui vont nous accompagner sur notre démarche, mais aussi nos consommateurs. Et tout le monde en fait se mélange pour essayer d'inventer les produits de demain.
Le nom de la marque, il a été créé avec notre communauté. D'accord. C'est-à-dire que c'est pas nous qui avons dit on va s'appeler les bénéfiques. C'est première réunion avec la communauté, on était 30, journée brainstorming et on s'est dit ok, premier chantier, ben voilà nous l'esprit un peu de la marque, on va voir comment on l'appelle. Et donc c'est un vote qu'on a fait, les idées. Et ça vient pas juste de nous.
Ouais,
ça et c'est pour ça que c'est les bénéfiques, parce qu'il n'y a pas juste nous deux, il y a toute la communauté.
Ouais, donc c'est un fonctionnement très horizontal, plutôt que
la
verticale qu'on connaît habituellement.
Ouais, exactement.
D'accord. Mais on est d'accord que ça ne peut pas fonctionner pour toutes les formules. Par exemple, si un jour vous avez envie d'ajouter un actif breveté, il y a du secret autour des brevets.
Alors, du coup, effectivement, on nous pose beaucoup cette question de quand on dit tout, du coup, on n'est plus du tout protégé et vous donnez votre R&D. Mm. Alors déjà, premièrement, un brevet, il faut savoir que tout le monde peut consulter un brevet. Enfin, c'est une base officielle donc, sur l'INPI. On tape le nom du brevet, on a accès au brevet. Les brevets, c'est un peu aussi un secret de polichinelle. On va y revenir après sur justement ces secrets de formulation. Mais en fait, un brevet, tout le monde a accès à un brevet. Et après, nous, notre démarche, on peut demain utiliser un actif breveté, mais donner le pourcentage au gramme près de l'utilisation de cet actif breveté dans notre formule, expliquer d'où vient, en termes d'origine et de sourcing, cet ingrédient breveté, ça n'empêche pas l'open source et la co-création. En fait, on peut utiliser ces brevets-là. Après, pour nous, ce n'est pas du tout une barrière.
Ce n'est pas un frein.
Et au contraire, je trouve que les brevets ont quand même, mine de rien, une philosophie open source, parce qu'on a accès à un brevet. Donc, c'est une barrière sans être une barrière à l'entrée, on trouve les brevets.
D'accord. OK. Et vous avez tout de suite trouvé un laboratoire prêt à vous soutenir dans cette démarche, parce que eux non plus, ils n'ont pas trop intérêt à ce qu'on dévoile leur formule.
Alors, ce n'est pas leur formule. C'est ça aussi la clé. C'est-à-dire que nous, on a créé en fait la formule, on travaille avec une formulatrice indépendante, mais c'est notre formule à nous.
D'accord.
Donc, ce qui fait que quand on va voir un laboratoire, effectivement, on ne vient pas prendre une de ces formules, on ne vient pas co-créer une formule avec lui. On est allé voir pour transposer nos formules de façon industrielle, ce qui est complètement différent dans la démarche.
Ouais, bien sûr.
Il s'avère qu'il y en a qui quand même étaient un peu effrayés par cette idée, forcément.
J'imagine.
Mais la majeure partie, quand même, à partir de ce moment-là où eux, ça ne les engage pas en termes de formules, il n'y a pas trop de soucis, quoi.
D'accord. Et vous craignez pas la copie, le plagiat
C'est un peu, c'est ce que j'expliquais moi un peu dans ma casquette un peu experte sur cette cosmétique, c'est qu'en fait, c'est un secret de polichinelle, les formules de cosmétiques. Oui, un consommateur qui ne vient pas de ce métier-là ne va pas comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de son produit, mais par contre, quelqu'un qui travaille sur une paillasse au quotidien, si on lui donne une cosmétique et qu'elle le retourne et qu'elle voit sa formule Inky, elle va savoir quelques pourcentages près, en fait, ce qu'il y a à l'intérieur et la structure de cette formule. Et donc, ce qu'on explique, c'est que on crée, en fait, cette culture du secret parce que, du coup, on veut valoriser le fait qu'on a une formule unique aux yeux du consommateur. Ça donne,
la
recherche, le développement. On a passé 15 ans pour pouvoir mettre au point cette formule qui va effacer toutes vos rides dans l'espace de 15 jours. Alors,
c'est beau de rêver.
mais justement, ça fait rigoler aujourd'hui.
Ouais.
Et moi, c'est ce que j'aime. Je me rends compte que le consommateur est en train de prendre conscience qu'il y a un moment donné, toutes ces dérives de cosmétiques dont on hérite de ces 30 à 40 dernières années, où on a surcomplexifié les routines, où il nous faut 3 sérums, une crême pour l'œil gauche, une crème pour l'œil droit. Enfin, en fait, tout ça, c'est des choses qui aujourd'hui n'ont plus de sens dans la consommation de demain. Enfin, on parle tous de comment réinventer, comment changer les choses. Nous, clairement, ça fait partie de ça. Et vraiment, c'est un secret de polichinelle, les recettes.
Oui, puis la deuxième chose aussi, c'est qu'on donne effectivement la formule au gramme près. Après, effectivement, il y a tout un process de fabrication qui est lié au produit, qui n'est pas forcément super simple. Mmh. En plus, voilà, c'est le travail de Mélinda qui source tous les ingrédients. Il faut trouver les ingrédients. Même un ingrédient, on va parler par exemple d'une huile de chanvre que nous, on va chercher, c'est un petit producteur en Bretagne. Eh ben, on a testé d'autres huiles de chanvre, on n'avait pas le même résultat.
Ah.
Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas juste le produit, c'est-à-dire qu'on a des formules minimalistes qui font que le produit qu'on a choisi est déterminant pour la réussite en fait, du produit final.
D'accord, de la formule. Ah ouais, ok.
Donc
bah
ça,
oui.
Ça nous protège, mais comme ça protège du coup tout ingrédient ou toute formule cosmétique classique.
Ouais. Et justement, à propos de l'open source, il y a aussi le critère très important pour vous du circuit court. Alors, à part le sel de la mer morte qui est dans le déo, tout vient d'un petit périmètre. En tout cas, tout est en local.
Effectivement. Alors ça, du coup, ça a été l'un de nos combats et un combat pas si évident que ça, au final, parce que du coup, nous, c'était notre idée de se dire qu'on voulait tout faire en France. Donc, bien évidemment, breaking news, c'est pas possible de trouver 100% des ingrédients en France.
C'est clair.
Mais par contre, ça nous tenait à cœur. Je pense que j'en parle souvent de cet exemple, mais je trouve que c'est l'exemple qui permet de se rendre compte de la différence d'aller chercher un ingrédient au bout du monde et d'un ingrédient en France. Par exemple, notre glycérine. Donc, on a été chercher même du sourcing français sur nos commodités. On appelle ça des commodités en cosmétique. Donc, c'est vraiment tous les ingrédients qui sont autour des actifs et des matières nobles.
D'accord.
Une glycérine, quand on l'achète en Inde ou en Asie, et c'est majoritairement, alors je ne vais pas donner de mauvais chiffres, mais c'est 90% du marché, en fait, va se sourcer, je pense, en Inde
en
et en
Asie,
Chine.
Ouais.
On va l'acheter entre 2-3 euros le kilo.
Ouais, ok.
Nous, du coup, cette glycérine, on a trouvé un producteur dans le Berry. Cette glycérine, elle est produite en France.
D'accord.
Et du coup, elle va nous coûter 19 euros le kilo.
C'est 6 fois et demi.
C'est ça.
Et c'est ce qu'on essaye d'expliquer, c'est que sourcer en France, c'est effectivement derrière essayer en fait, de conjuguer nous avec tous les objectifs qu'on a quand on crée une formule et d'essayer d'être le plus rationnel possible quand on parle de Made in France. C'est un peu notre combat et il ne s'agit pas juste de mettre une huile ou un actif dans une cosmétique pour dire que c'est, qui vient de France.
Oui.
Pour dire, bon, voilà, on est français. Je pense que la réflexion du Made in France, elle est bien plus profonde. Et surtout en cosmétique, je pense qu'il y a des choses qui sont encore à faire. Et, nous, honnêtement, on est en constante recherche. Par exemple, notre menthol aujourd'hui, on n'a pas trouvé de solution en France. Donc, on va essayer du coup de le rapatrier. Enfin, en fait, on essaye de se poser la question.
Ouais.
Et autre point. Enfin, ça c'est un peu une casquette plus formulation, mais ce qu'on essaye de faire, il y a différentes étapes. Il y a la plante qui est cultivée en France, récoltée en France et transformée en France. Et après, je parlerai de notre lin, c'est une belle histoire. Après, par exemple, la glycérine, oui, effectivement, ça va être sur base d'ingrédients qui ne sont pas français, donc qu'on va chercher beaucoup plus loin. En revanche, la production, donc une étape intermédiaire, est faite en France. Donc en fait, quand on creuse le sujet, c'est un sujet assez complexe, en cosmétique, on dépend encore beaucoup énormément de l'huile de coco, toutes ces matières premières. L'huile de palme. Donc du coup, on essaye d'être en constante évolution, mais ça, avec l'open source, ce qu'on veut, c'est l'expliquer aux consommateurs. On veut en fait qu'ils prennent conscience qu'il y a toutes ces étapes différentes, qu'un ingrédient peut être produit ou pas produit, il y a plein d'intermédiaires. Et du coup, je parlais du lin français, et ça, on y tient. Alors, c'est tout autre chose, c'est qu'on a développé des accessoires en lin normand.
Okay.
Et ça, c'est aussi une autre aventure, c'est qu'en fait, on parle de cosmétiques, mais il y a ce débat du Made in France, il est valable énormément de marchés.
Ouais.
On s'est rendu compte dans nos recherches, on voulait faire des accessoires en lin, on s'est rendu compte que la Normandie est, je pense, la région
premier
producteur de lin en France, sauf qu'il exporte le lin en Chine, qui est tissé en Chine, et qui revient en France pour être cousu.
Ok.
Et ça fait partie en fait des aberrations quand on commence à creuser des sujets.
Ouais,
on se dit mais
l'empreinte carbone est désastreuse.
Ouais, c'est désastreux.
Et ouais. On s'est dit ok. Bon est-ce qu'on peut le faire? Et donc on a creusé et on a rencontré une entreprise adaptée formidable. C'est une entreprise adaptée juste pour vous dire définir en fait c'est une entreprise qui embauche des personnes en situation de handicap.
Ok.
C'est l'APP Bar et donc du coup ils nous accompagnent justement sur la confection de ces accessoires avec du lin qui est cultivé, tissé et du coup cousu en Normandie. Et ça, d'accord. C'est des choses en fait qu'on a essayé de rapatrier.
Sort jamais de Normandie.
Ouais.
C'est ça. Ouais. Et c'est pour ça que nous, c'était important. C'est-à-dire qu'autant on a ce rapport avec nos produits, on veut que ce soit au maximum sourcé français, ça concerne aussi nos accessoires. Pour nous, c'était pas envisageable même de faire une trousse, un couteau bio qui vient d'Inde. Pour nous, c'était pas envisageable. Et c'est vrai que le fait d'avoir cette filière qui soit 100% normande jusqu'au bout, pour nous, voilà, ça cochait toutes nos cases.
Ouais, voilà. Et alors, combien de produits ont été conçus à ce jour?
Alors, il y a une gamme de 7 produits. Ouais. Donc, on a les 4 essentiels du quotidien. Donc, on a le shampoing. Donc, il y a l'huile de noisette de Gascogne, l'argile blanche d'Auvergne. On a le pain de douche, hein, qui, lui, a l'huile de chanvre de Bretagne, l'argile de rose d'Auvergne aussi. On a notre déodorant. Aussi, on a notre dentifrice. Donc ça, c'est les 4 essentiels du quotidien. Et ensuite, on a une gamme de 3 huiles. Donc, qui sont des huiles multifonctions. C'est-à-dire qu'elles servent à la fois pour démaquiller, crème visage. Ça sert pour vos cheveux, vos mains, pour tout votre corps. Et on en a une pour chaque type de peau. Donc, on a l'huile de prune d'Aquitaine, qui est plutôt pour les peaux sèches et matures. On a l'huile de noisette toastée de Gascogne, qui est plutôt pour les peaux mixtes à grasse et imperfection. Et on a l'huile de chanvre, qui est plutôt pour les peaux normales à mixtes ou vraiment atopiques.
Voilà. Ok, waouh, pas mal.
Et on a aussi nos accessoires, dont parlait Mélinda, nos accessoires en lin, donc que ce soit trousse de toilette, pochon, voilà, on a tout un tas d'accessoires normaux.
Et le packaging fait lui aussi partie de votre démarche, je crois.
Pareil. On s'est posé la question du Made in France sur l'intégralité de la chaîne de valeur. Donc le packaging en fait partie et c'est un élément central quand on développe un produit cosmétique. Alors ça, c'est aussi un peu la force de l'open source avec la co-création et le co-développement. Par exemple, si on prend l'exemple de notre déodorant, au début, on a fait passer des questionnaires pour savoir quelle était la galénie qu'on souhaitait de la part des consommateurs. Enfin, on a essayé de s'interroger. Beaucoup nous ont parlé, par exemple, des tubes en carton, où en fait, on a un format solide. Bah, nous, les tubes en carton, clairement, on n'arrive pas à en trouver qui ne viennent pas d'Asie. Il y a des choses en packaging. Après, peut-être que des plus gros volumes me permettrait de...
Ouais.
Mais honnêtement, on a cherché, on n'arrive pas vraiment à trouver. Mmh. Et donc, du coup, le packaging, on a été jusqu'au bout de notre démarche. Par exemple, notre pipette, elle est produite en France pour nos huiles.
Okay.
Nos flacons carrés viennent d'Italie. Notre pot en verre vient de Belgique. Notre capsule, en fait, sur le pot en verre vient d'Espagne. Donc, quand on ne peut pas trouver en France, parce que... Encore une fois, on ne peut pas tout trouver en France. On est dans une démarche de « Ok, on n'a pas la France, du coup, on est sur les pays limitrophes.
Ouais, »
Et si les pays limitrophes ne peuvent pas, on est sur Europe. Mais on est vraiment en fait, sur une réflexion où on élargit en fonction de ce qu'on a besoin de trouver. Quoi.
Mmh, ok. Et alors, votre campagne Ulule, on en parle.
Ah,
bon, elle a cartonné, hein, sans mauvais jeu de mots. Vous avez atteint plus de 1500%. Par rapport à l'objectif initial. Vous pouvez nous raconter?
Bah ouais, ça a été un événement. En fait, on a lancé la marque avec la campagne Ulule, donc le 29 septembre dernier. Ça va rester gravé dans nos mémoires. Hein. Ben, on a d'abord eu effectivement nos proches. On a fait organiser une soirée avec nos proches et la campagne a démarré très vite. Rapidement, ce qu'on a pu voir, c'est que ça, le bouche à oreille a vraiment fonctionné de manière extraordinaire, puisque notre premier cercle a été atteint très rapidement. C'est parti comme une traînée de poudre. Et donc, rapidement, effectivement, on a vu plein de gens qu'on ne connaissait pas, qui contribuaient, ce qui était phénoménal. Et plus les gens testaient, on recevait en parallèle des messages des gens qui testaient, qui étaient contents, qui en parlaient autour d'eux. Et ça a été un truc vraiment de dingue pour nous, parce qu'on voyait les jours passer, tout le monde nous avait parlé du creux de la vague, qu'on n'a pas vraiment vu.
Ah oui, vous n'avez pas vu
on ne l'a pas vu. C'est parti et ça continue. On s'est dit, mais il va arriver. Et en fait, tant mieux quelque part, il n'est pas arrivé. Donc, on a été très moteur aussi.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on a beaucoup communiqué.
Ah bah oui.
On a fait,
j'ai vu sur LinkedIn. Hein.
Voilà, on a beaucoup.
On était
hyper présente, mais c'était génial parce que il y avait vraiment plein d'interactions en fait avec les consommateurs et ça a été génial parce que les gens ont vraiment suivi et atteindre ces 1500% pour nous c'était au-delà de ce qu'on attendait quoi. Donc ce qui fait que ça a été chouette et on est contente parce que cette semaine on a réussi à expédier nos presque 400 colis.
Ah ouais, bien.
Cette semaine donc ça y est, tout est parti. parti. Donc tout le monde est en train de recevoir ses colis, ce qui est quand même assez sympa.
Ah, vachement bien.
Donc voilà. Donc très contente de démarrer avec cette campagne.
Efficace.
C'est un chapitre intense de Montagnes Russes qui se clôture. Ah, mais ouais. On en est fiers parce que quand tu entreprends, tu vois, on se disait avec Nathalie, oui, on fera une campagne Ulule.
On a plein de projets.
Tu vois, c'est toujours super simple à l'écrit. Tu te dis, bon, ok, c'est parti, les doigts dans le nez, on y va. Et non, en fait, c'est pas si simple que ça. Franchement, c'est assez intense. Et juste un conseil, ça a été dingue, c'est le pouvoir un peu de la co-création qu'on expliquait. C'est qu'en fait, vu que nous, très tôt, on a fait tester nos produits à notre communauté, qu'on a eu des retours, on avait des gens qui étaient assez porteurs et qui témoignaient. Et surtout, ce bouche-à-oreille a énormément fonctionné à travers notre communauté. En fait,
c'est vraiment une communauté, mais...
Et sur LinkedIn, on retrouve les personnes de notre communauté, forcément. Et donc, du coup, il y a un jeu qui s'est créé où, effectivement, je pense qu'on a vu nos têtes tout le mois d'octobre sur LinkedIn. Je pense qu'on a saoulé beaucoup de personnes.
Mais bon, ça l'a fait, franchement. Bah oui, vous avez une visibilité parce qu'effectivement, vous avez beaucoup communiqué et c'est ce qu'il faut faire, quoi, de toute façon.
C'est le jeu un peu d'Ulule. Mais jusqu'à ce qu'on fasse même une conférence, c'est-à-dire que le fondateur, le DG d'Ulule, qui est le fondateur, nous a invités à faire une conférence quand même avec lui. Ouais. Donc, ce qui était quand même... pour nous, on partait de tout en bas. On s'est dit, mais que se passe-t-il? Donc c'était chouette. C'est vrai que la communauté, pour nous, on co-crée effectivement avec eux. On ne met pas un produit sur le marché sans que la communauté l'ait validé. Okay. Donc, à chaque fois, il y a 100 personnes qui testent le produit, qui valident. Donc, il y a une vraie interaction avec la communauté. Mais la communauté nous a portés pendant cette campagne.
Ouais, c'est ça.
Continue à nous porter, c'est-à-dire le moindre salon, moindre intervention, on a toujours des membres de la communauté qui viennent nous aider. C'est juste magique. Franchement,
on l'a fait, ça y est, c'est bon.
Et à quoi va servir l'argent récolté en dehors des précommandes?
On s'est amusé, on avait ce palier sur Ulule où on expliquait un peu. Nous, l'ultime point, c'était la consigne. Ouais. En fait, on parle beaucoup de la consigne aujourd'hui en cosmétique. Nous, on y croit. Enfin, je pense que c'est vraiment une solution. On fait que de l'avoir passé cette phrase, mais c'est vrai, le meilleur des déchets est celui qui n'existe pas. Donc, il faut vraiment qu'on se challenge sur ça. Et pour nous, il faut qu'on arrive à financer du coup ce circuit où mettre en place. Alors, on travaille avec des ESAT. Oui. Donc, encore une fois, ça, c'est une très grosse valeur humaine qu'on a. On veut vraiment travailler avec des personnes en situation de handicap, vraiment être dans...
Partager
le partage et l'inclusion vraiment jusqu'au bout, vraiment des fortes valeurs sociétales qu'on porte. Et du coup, en fait, à travers un projet qu'on va porter avec un ESAT, on va avoir des équipements. On va pouvoir avoir un cercle vertueux, on va récupérer nos petits pots en verre, nos couvercles, on va les laver, on va les réinjecter. Donc bien évidemment, tout ça va se construire au fur et à mesure du volume qu'on va pouvoir recevoir.
Bien
mais
sûr.
Ça, c'était quelque chose qu'on voulait intégrer dans la marque au jour 1.
Donc, dès le début.
Parce que quand tu le fais dès le début, nous on est persuadés que le faire dès le début fait que du coup, tu vas vraiment travailler sur cette solution et tu vas pouvoir du coup grandir avec le flux qui va arriver.
Bien sûr.
Des marques tu vois, qui sont en place depuis une dizaine d'années, quand tu commences à parler de consignes, quand tu as une marque en place, c'est assez compliqué.
Et puis il y avait deux autres points aussi qui étaient importants. Il y a un deuxième point qui était on s'était engagé l'avant-dernier palier, c'était aussi de recruter quelqu'un. Et on a une nouvelle recrue qui est arrivée la semaine dernière.
Super.
Donc c'est Marion, on lui fait un petit coucou à Marion qui est notre acolyte qui déjà est juste formidable. Donc on a quelqu'un qui vient nous aider et j'avoue qu'on est contente parce que là ça commençait à être vraiment intense. Et le troisième point qui est aussi très important, c'est la R&D, c'est-à-dire que ça nous a permis de lancer la R&D de nos prochains produits en avance. C'est assez génial parce que ça va nous permettre de muscler encore la marque pour 2024. Donc notre communauté déjà a des petits secrets qui ont été dévoilés, mais préparez-vous parce qu'il y a plein d'autres produits qui arrivent.
Et autre point important, on reverse 1% de notre chiffre d'affaires à l'Institut Curie. Mine de rien, ce Ulule, c'est une fierté de l'avoir poussé aussi haut. Tout ce qu'on fait au quotidien, c'était pas uniquement pour notre campagne, nous c'est des choses encore une fois qu'on voulait intégrer dès le début. Donc ça aussi c'est une belle fierté, belle fierté.
Et là c'était important, pour nous deux, ça résonne particulièrement. Et que c'était important de redonner dans cette notion de partage qui est vraiment au cœur de nos valeurs, de pouvoir redonner un tout petit peu de ce qu'on m'a beaucoup donné à un moment où j'en avais vraiment besoin. Et donc voilà, et donc on va faire plein d'opérations avec eux, évidemment, les personnes qui sont en traitement, puis comme moi je l'ai été, pouvoir aussi leur donner accès à nos produits. Donc il y a une vraie démarche de collaboration avec Curie.
Ah, c'est top. Et Nathalie, justement, tiens, on en parle du jeunisme dans l'entrepreneuriat.
Bah, c'est vrai qu'à mon jeune âge, je comprends qu'on se pose la question.
Parce que c'est vrai que c'est un âge où on pense plutôt, bon, allez, fin de carrière,
ouais, c'est vrai.
Tranquille.
Ouais. Bon, j'avoue qu'à un moment, j'y ai pensé, mais je me suis dit, c'est pas trop mon truc. Bah, dans l'histoire, effectivement, j'ai eu 50 ans cette année. On se dit, mais quelle est cette idée folle de vouloir effectivement lancer une start-up et de se lancer effectivement à 50 ans. Mais en fait, il y a un moment où moi j'ai côtoyé donc pas mal de multinationales, pas mal de pays, des plus petites structures, et c'est vrai que j'arrivais pas forcément à trouver ma place. Et là, vu ce qu'on expliquait au tout début, c'est-à-dire cette rupture de confiance, fait que cette idée est devenue comme une évidence. Et Mélinda et moi, c'est quelque chose qu'on partage, c'est-à-dire qu'on voulait pas, on voulait entreprendre toutes les deux, chacune de notre côté au départ. Mais surtout, l'idée qu'on avait toutes les deux, c'était d'entreprendre pour quelque chose qui aurait de l'impact.
Ouais,
c'est-à-dire juste lancer, sans dénigrer quoi que ce soit, mais une société juste X ou Y, par exemple de conseil ou d'autres choses, c'était pas notre truc. C'est-à-dire qu'on voulait vraiment que ça ait de l'impact. Mmh. Et c'est vrai qu'on voulait trouver une démarche, une marque qui fasse changer les choses. Et pour nous, c'est vrai qu'en cosmétique, il y avait quelque chose, comme on disait au début, à craquer, à changer. Prendre des risques quelque part, ça fait partie aussi de notre philo. Et c'est vrai qu'à 50 ans, en plus, moi j'ai les enfants qui vont bientôt démarrer les études, on peut dire bon, voilà, mais non, il fallait y aller. Mélinda, son mari est entrepreneur, donc c'est pareil, c'est notre notion de risque. Mais on avait vraiment envie, parce que cette idée, on la porte, on y croit, on sait que ça peut vraiment changer la donne. Et pour nous, ça fait important. Donc, qu'importe, 50 ans, c'est la sagesse, il y a le recul, il y a un petit peu d'expérience.
Beaucoup d'expérience, même.
Voilà, il y a le réseau aussi qui joue. Et puis, c'est la complémentarité avec Mélinda.
Ouais, voilà,
c'est-à-dire que, bon, on est deux femmes de deux générations différentes, on peut le dire. Tout le monde nous demande si on est de la même famille, c'est ma fille. Souvent, alors, au début, je me disais, maintenant, j'ai l'habitude. Mais c'est vrai qu'on est très, très complémentaires, on l'a vu au niveau expérience, et très complémentaires aussi, c'est une force en fait, cette différence d'âge. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de la même façon, on n'a pas les mêmes réactions sur les sujets, ça permet, et on s'en rend compte au quotidien que c'est une vraie force d'être associées toutes les deux.
Ouais,
donc si vous avez 50 ans, allez-y, hein, que du bonheur.
Mais effectivement, je rebondis, c'est vrai que tu as le sentiment, tu as cette grosse vague de création de start-up, tu vois, tu as cette jeune génération. Et par contre, on s'en rend compte, effectivement, c'est pas du tout les mêmes challenges quand tu as terminé tes études, tu montes ton entreprise, en termes même de rémunération, tu n'as pas les mêmes besoins, les mêmes attentes.
Ouais.
C'est quelque chose, on ne s'est pas posé beaucoup la question longtemps, mais en tout cas, c'est vrai qu'effectivement, c'est assez particulier et c'est la particularité de notre duo, quoi. C'est qu'on a quitté toutes les deux un job bien établi, un confort, mine de rien. On se rend pas compte parce que quand on est de l'autre côté, en tant que vraiment créateur d'entreprise, l'histoire n'est pas pareille. On essaie de le marteler avec Nathalie, c'est pas fait pour tout le monde d'entreprendre.
Ouais, voilà,
c'est très très compliqué, mine de rien. Enfin, tu vis quand même des beaux passages à vide.
Ouais. Oui.
Et tu as des challenges quotidiens déconnectes jamais. Donc, mais ça, je pense que ça nous aide, mine de rien, nos âges. Alors, j'ai pas 50 ans, mais
oui, mais voilà.
Du haut de mes 32 ans, tu as des attentes et tout. Mais c'est une force. Et on ne parle pas à la même cible
aussi.
Tu vois, et ça, c'est une force.
Totalement. Puis moi, c'est vrai qu'après ce que j'ai vécu, je me dis rien à perdre et tout à gagner. Et il faut en profiter à fond, quoi. Et ça, c'était une envie profonde, en fait, qu'on avait toutes les deux. Et on s'est dit, on y va, quoi. Il faut y aller. On s'est trouvé. On ne l'aurait pas fait individuellement. On ne l'aurait pas fait.
Voilà, c'est ça.
Sincèrement, le fait de se trouver et de pouvoir le faire ensemble, ça change tout.
Et alors, quel est votre rêve le plus fou pour 2024?
Le rêve le plus fou, c'est qu'il y ait des bénéfices, mais absolument partout.
Yes.
donc voilà, on a la chance de rentrer au printemps, donc à Paris 2. Donc ça y est, on a démarré lundi.
C'est bien.
Ça, c'est chouette parce que voilà. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on ne compte pas s'arrêter là. Et donc effectivement, on va essayer de pousser au plus loin en fait les bénéfices, que ce soit accessible à la fois en digital, donc sur notre site, sur des plateformes de référence, et puis effectivement,
dans le plus de
boutiques physiques possibles, quoi.
Ouais.
Donc voilà, on travaille sur plusieurs réseaux, mais effectivement, on sent qu'il y a de l'attrait, c'est vraiment assez nouveau.
Ouais.
Donc on a été reconnu d'ailleurs par la French Tech aussi, enfin identifié en pépite. Donc on sent qu'il y a quelque chose
qui se passe
au niveau de la marque. Donc on en est très contente. On a cet impact en fait qu'on cherchait. Donc pour nous, c'est ça, c'est des murs de bénéfices un petit peu partout.
Ça et le recrutement.
C'est
quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Ouais. Enfin, pour nous, en fait,
faire grandir l'entreprise.
Oui. Enfin, en fait, ce qu'on veut, c'est vraiment recruter, avoir des personnes qui œuvrent au quotidien avec nous sur ces valeurs. Enfin, je pense qu'on l'a, on l'a compris à travers tout ce qu'on a pu raconter. Enfin, on a des fortes valeurs, enfin, clairement humaines. Et on a ce besoin, je pense, de
partager et qu'on crée ensemble. Ouais. C'est-à-dire quand on dit qu'on veut mettre la marque au niveau des consommateurs, c'est aussi dans notre façon de travailler au quotidien. Marion qui est arrivée, pour nous, c'est trois personnes, c'est pas deux plus une, quoi. C'est vraiment. Donc c'est dans notre façon de travailler, de co-créer, que chacun puisse apporter, s'exprimer, apporter toutes ses compétences, puisse se développer. Ça, c'est vraiment dans nos projets. Donc recruter, oui, c'est très important.
Donc les deux mots de 2024, c'est vendre et recruter.
Voilà. C'est dit.
Merci Nathalie, merci Belinda.
Merci Chantal.
Merci, c'était un bonheur. Merci beaucoup.
Partagé.
C'est déjà terminé, le temps passe si vite. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, pensez à nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur la plateforme d'écoute de votre choix. Et puis, parlez de Beauty Toaster à au moins deux personnes de votre entourage, ça m'aiderait énormément. Enfin, n'oubliez pas, désormais, on se retrouve tous les vendredis, première heure. Alors, à la semaine prochaine.